J'aimerais maintenant revenir sur un texte que j'ai partagé avec vous à Saint-Albin. Je ne sais pas si vous en souvenez, pour ceux qui y étaient. Alors ça fera peut-être une répétition pour ceux qui y étaient, mais l'art de la pédagogie, c'est de répéter les choses. Tous les professeurs savent qu'il faut constamment répéter si on veut que ça rentre dans la tête et pour nous aussi dans le cœur. Et puis pour ceux qui n'étaient pas, ben ça vous donnera aussi l'occasion, comme cela, de méditer un texte que je trouve formidable, extraordinaire, et que depuis Saint-Albin, j'ai eu l'occasion aussi de travailler davantage. Alors je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 11. Vous savez que le livre des Actes des Apôtres, qui se trouve tout de suite après les Évangiles, c'est le livre du commencement de l'Église de Jésus-Christ, ou des Églises de Jésus-Christ. Il y a d'abord eu l'Église de Jérusalem, l'Église qu'on pourrait appeler un peu l'Église mère, qui est née le jour de la Pentecôte, où le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, les disciples. L'apôtre Pierre a proclamé l'Évangile, et ce jour-là, 3000 personnes se sont convertis, ont accepté Jésus comme leur Sauveur et leur Seigneur. Et ça a été le commencement de l'Église à Jérusalem. Mais cette Église à Jérusalem, parce qu'à la Pentecôte, il n'y avait pratiquement que des Juifs qui venaient pour célébrer cette fête de la Pentecôte, mais ils venaient pas seulement de Jérusalem, ils venaient un peu des régions alentour. Cette Église de Jérusalem était formée de Juifs, convertis de Juifs qui avaient accepté que Jésus était le Messie, qu'il était l'envoyé de Dieu et qu'il était aussi le Sauveur. Et puis un peu plus loin, dans le livre des Actes des Apôtres, alors on a le diacre Étienne qui est mis à mort, et au chapitre 11, au verset 19, nous lisons ceci: « Ceux qui avaient été dispersés à cause de la persécution survenue après la mort d'Étienne, allèrent jusqu'en Phénicie. » Alors la Phénicie, c'est notre Liban actuel, au nord d'Israël. À Chypre, il y a encore aujourd'hui, bien sûr, des Chypriotes ou des Cypriotes, l'île de Chypre, qui fait face aussi à la Palestine. Et à Antioche. Alors j'ai demandé à Pierre-Yves de trouver sur Internet, on trouve tout sur Internet, une carte du Proche-Orient, du bassin méditerranéen, où il y aurait la ville de Jérusalem, que vous voyez ici avec la flèche du bas, et la ville d'Antioche, que vous avez un petit peu au nord. Et vous avez aussi un autre Antioche, qui se situe parfois aussi, qu'on rencontre parfois dans le Nouveau Testament, qui est Antioche de Pisidie, et qui lui se trouve aujourd'hui dans ce qu'on appelle la Turquie, et qui est là-haut, voilà, ici, là, voilà, Antioche de Pisidie. Mais l'Antioche dont nous parlons, c'est celui-ci qui était la capitale à cette époque de ce qu'on peut appeler la région de Syrie. Hein, voilà. Alors, je reprends ma lecture. « Ceux qui avaient été dispersés à cause de la persécution survenue après la mort d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, à Chypre et à Antioche. Ils n'annonçaient la parole » à parole de Dieu, à personne d'autre qu'aux Juifs. C'était un peu pour eux une habitude encore, une tradition. Ils pensaient que tout cela, ça ne concernait que les Juifs, Jésus étant Juif, étant venu au sein de son peuple. Cependant, il y eut parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène. Voilà Chypre et voilà Cyrène. Aujourd'hui, c'est la Libye, Cyrène. Un peu la Tunisie. Il y eut parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, venus à Antioche, parlèrent aussi aux Grecs. Alors les Grecs, c'est les non-juifs, ceux qui ne sont pas juifs. Et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et grand fut le nombre de ceux qui crurent et se convertirent au Seigneur. Alors, comment est née l'Église d'Antioche. Des Juifs convertis à Jésus-Christ qui ont eu peur de subir le même sort qu'Étienne à Jérusalem, ils ont quitté Jérusalem et ils sont partis à Antioche. Et puis, des personnes converties elles aussi, qui ont quitté la Cyrène, qui ont quitté aussi l'île de Chypre, pour se retrouver à Antioche. Les gens ne voyagent pas seulement depuis qu'il y a des avions et des TGV. De tout temps, les gens ont beaucoup voyagé. Et autrefois, et on le voit aussi dans le Nouveau Testament, il y a des mouvements de population, des mouvements de foule, des déplacements des gens qui voyagent. Et cette église Antioche, qui s'est constituée ainsi, est formée de personnes qui venaient d'ailleurs. Sans doute un peu comme nous aussi, nous ne sommes pas tous issus de cette région de Villefranche-sur-Saône. Certains d'entre nous ont des ancêtres qui viennent de pays lointains, ou même qui ont déménagé pour des raisons professionnelles ou autres, et qui se retrouvent avec d'autres personnes issues, on pourrait dire, du terroir, ici à Villefranche. C'était pareil pour l'église d'Antioche. Mais ce qui est formidable, c'est que ces personnes, et à la fin du chapitre 11, au verset 26, la deuxième partie du verset 26, nous lisons ceci: « Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. » Les disciples de Jésus furent appelés chrétiens. Ces chrétiens, dès qu'ils se retrouvent ensemble, ils se retrouvent pour se constituer, on pourrait dire, en église, mais aussi pour annoncer la parole de Dieu, pour témoigner de leur foi. Ils leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Le mot évangile, ça veut dire bonne nouvelle. On pourrait traduire, d'ailleurs, c'est peut-être comme ça dans certaines Bibles. Ils leur annoncèrent l'évangile du Seigneur Jésus. Alors nous qui venons de régions différentes, de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud, de Villefranche, qui sommes originaires peut-être de régions ou de pays plus lointains, nous nous réunissons aussi autour du Seigneur pour le louer, pour l'adorer, pour écouter sa parole. Mais est-ce que nous aussi, nous partageons la bonne nouvelle du Seigneur Jésus? Il semble que pour ces chrétiens venus de loin, c'était quelque chose qui était un peu inné, quelque chose qui était comme faisant partie d'eux-mêmes. Ils témoignaient de la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. C'est effectivement une bonne nouvelle. Il n'y a pas de plus grande, de meilleure nouvelle que ce que Jésus a fait pour nous et ce qu'il apporte dans notre vie. Alors, je continue la lecture au verset 22. « Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem. » 500 kilomètres entre Jérusalem et Antioche, pas de téléphone, pas de télégraphe. Le courrier et la poste, ça fonctionnait avec des gens qui se déplaçaient pour distribuer les lettres, hein, des émissaires qui étaient ainsi envoyés. On voyageait généralement à pied, parfois à cheval, ça c'était plutôt les militaires, ou encore en char, un peu comme l'eunuque éthiopien en Actes chapitre 8 ou 7, 8. Et pourtant, la nouvelle, le bruit, en parvint aux oreilles de l'église de Jérusalem. Et que fait cette église mère de Jérusalem? Elle va leur envoyer, à ces chrétiens d'Antioche, un homme surnommé Barnabas. Alors, Barnabas, on le rencontre déjà au chapitre 4 du livre des Actes. Il faisait partie de cette première église de Jérusalem. Et vous savez que ces membres de cette église de Jérusalem vivaient, mettaient un peu en commun leurs biens pour aider les indigents et ceux qui n'avaient pas grand-chose. Et Barnabas, qui était lévite, c'est-à-dire il faisait partie de la tribu d'Israël qui donnait des prêtres au culte de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament, et c'était quelqu'un qui avait des responsabilités dans cette église de Jérusalem. Alors ils vont dépêcher Barnabas auprès de cette église d'Antioche. Barnabas, en arrivant à Antioche, va voir qu'il y a là toute une foule de personnes qui s'est convertie. Verset 21, la main du Seigneur était avec eux, et grand fut le nombre de ceux qui crurent et se convertirent au Seigneur. Que faire avec ces chrétiens nouveau-nés dans la foi, ces chrétiens qui découvrent, issus certains du peuple juif, avec tout le patrimoine religieux constitué par l'enseignement des synagogues, du temple à Jérusalem, de la lecture de l'Ancien Testament, et puis de ceux qui sont issus du peuple grec, qui n'ont pas tellement de connaissances de toutes ces choses. Alors Barnabas va se rendre compte qu'il y a là un besoin d'enseigner le peuple de Dieu. Et une des caractéristiques de ces églises du Nouveau Testament, et on peut dire aussi un des ministères importants de l'apôtre Paul, c'est d'apporter un enseignement solide à ces chrétiens pour qu'ils puissent être eux-mêmes édifiés, solides dans la foi et grandir dans le Seigneur. Et c'est quelque chose de primordial, de capital. Quand on devient chrétien, non, je pense qu'on a envie de connaître la Bible, la parole de Dieu, mais il est important de grandir et de recevoir un enseignement pour être fort, être solide, de plus en plus solide dans la foi. Et Barnabas va se rendre compte que il est incapable tout seul d'enseigner cette foule de chrétiens. Alors il va avoir une idée géniale, ou le Seigneur va lui donner une idée géniale. Et souvent, quand nous sommes démunis, quand nous ne savons pas ce qu'il convient de faire, le Seigneur nous donne des idées. Et il va se dire, mais il y a à Tarse, ici, c'est pas très loin d'Antioche, mais encore une fois, hein, il faut y aller à pied, hein, ou peut-être en char, hein, ce qui prend pas mal de temps. Il y a à Tarse un homme extraordinaire qui s'est converti sur le chemin de Damas, ici à Damas, hein, en allant à Damas, en se rendant à Damas, qui s'est converti de façon assez spectaculaire. Il persécutait l'Église de Jésus-Christ. Il est devenu chrétien. Il s'est fait baptiser. Il n'a pas peur de discuter avec des Juifs de sa foi et de ce que Jésus a fait comme l'accomplissement de ce qui avait été annoncé dans l'Ancien Testament. Il se dit, mais je vais aller le chercher. Et ensemble, nous allons enseigner ce peuple. Et Barnabas, il nous est dit au verset 24, était un homme bon, plein d'Esprit Saint et de foi. C'est le témoignage du Saint-Esprit, de l'Écriture, de Luc qui a écrit le livre des Actes sur cet homme. Est-ce que c'est notre témoignage ? Nous pouvons demander au Seigneur d'être un homme ou une femme, bon ou bonne, plein d'Esprit Saint et de foi. Quel magnifique témoignage qui résume ce qu'était la vie, le ministère de cet homme, Barnabas. Alors Barnabas va donc chercher Paul, il s'appelait encore Saul à cette époque, à Tarse, et il le ramène à Antioche, et pendant une année, ils vont faire équipe pour enseigner les chrétiens de cette ville, Résultat, l'Église se consolide et l'Église se structure. Et là aussi, il est important, quand on a des personnes qui se tournent vers le Seigneur, quand on a une jeune Église, de lui donner suffisamment d'éléments bibliques pour qu'elle se consolide et qu'elle se structure. Et je vous invite maintenant à tourner les pages de, ou la page de votre Bible au chapitre 13, et nous arrivons au début du chapitre 13, où Luc nous dit, il y avait dans l'Église, l'Église d'Antioche, des prophètes, des docteurs, de point, ces docteurs étant Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul qui deviendra ensuite l'apôtre Paul, pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Dans cette église, il y avait des responsables, des anciens et des docteurs. Le mot docteur voulant dire ici de ceux qui enseignent la parole de Dieu. Les prophètes, ce sont ceux qui édifient, qui exhorte, qui encourage, qui console le peuple de Dieu. Et c'est donc essentiellement par la parole ou par l'affection qu'il le faisait. Les prophètes, c'est ceux aussi qui annoncent ce qui va arriver. Et dans cette église, au chapitre 11, on rencontre un prophète du nom d'Agabus qui annonce une grande famine dans la région de Jérusalem, dans la Judée. Et tout de suite, et on voit ça aussi au chapitre 11, verset 29, les disciples décidèrent d'envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. Il y a déjà cet esprit de solidarité, d'intercommunication entre l'Église d'Antioche et de Jérusalem, au point que des frères d'Antioche aident matériellement des frères de Judée et de Jérusalem. Les docteurs sont donc des enseignants qui enseignent, qui commentent la parole de Dieu. Ce sont des personnes qui avaient reçu ce don de la part de Dieu. Mais le don ne suffit pas. Il ne suffit pas de dire « moi j'ai un don, j'ai le don d'enseigner ». C'est un peu comme pour la musique. Il faut un don indispensable. Ça se voit quand les enfants sont jeunes, ceux qui ont des dons et ceux qui n'en ont pas. Mais il faut un travail régulier, voire intense, si on veut que le niveau s'élève au-dessus de la médiocrité. Et ces prophètes et ces docteurs forment ce que l'on peut appeler le collège pastoral de cette église d'Antioche. Il y a donc là des responsables qui enseignent, qui veillent à ce que ces chrétiens soient aidés non seulement spirituellement, mais aussi sans doute matériellement, et qui restent en lien avec l'Église de Jérusalem. Et à partir des noms qui sont donnés ici, on peut déterminer leur origine sociale ou géographique. Siméon, appelé Niger, appelé le Noir, probablement un homme originaire de l'Afrique noire. Lucius est un nom romain. Il vient de Cyrène. On l'a vu tout à l'heure, la Cyrène aujourd'hui, c'est la Libye. Manaen, c'est un nom à consonance hébraïque. Il a été élevé avec Hérode le tétrarque. Hérode le tétrarque, c'est un des fils de Hérode le Grand. Et c'est Hérode le Grand qui régnait à l'époque de la naissance de Jésus et qui a tué ou fait tuer tous les enfants de moins de 2 ans pour éliminer Jésus. Cet homme, Manaen, l'expression exacte, c'est frère de lait du roi Hérode. C'est-à-dire qu'il a tété le même sein que le fils d'Hérode. Il a eu la même nourrice. Ils ont grandi ensemble, ils ont sans doute joué ensemble étant petits. C'est donc quelqu'un qui a été élevé à la cour du roi Hérode. Et puis il y a Saul. Alors Saul, c'est l'apôtre Paul. Alors lui, c'était un pharisien, il faisait partie de ce parti religieux juif assez sévère, assez étroit, le pharisien, le pharisaïsme. Il a étudié, nous dit-il, par ailleurs, au pied du célèbre docteur de la loi Gamaliel, et Dieu en fera l'apôtre des nations qui ira évangéliser et puis annoncer l'évangile au loin. Et cet échantillon que nous avons ici par ses responsables reflète la diversité culturelle et sociale qui se trouve dans cette Église. Et je trouve que c'est extraordinaire que dans une Église, il y a des frères et des sœurs en Jésus-Christ issus de milieux tout à fait différents. Il peut y avoir des gens qui ont fait de très hautes études, et des gens qui savent à peine lire, ou voire même pas lire, pas savoir lire du tout. Il y a des gens qui viennent de familles, c'est peut-être plus tellement le cas aujourd'hui, mais de familles nobles, et d'autres de paysans, de cultivateurs. Voilà. Il y a de tout, c'est la diversité dans une église qui fait que nous nous retrouvons ensemble pour louer Dieu, en tant que frères et sœurs en Jésus-Christ, fils et filles d'un même Père. Et le Seigneur se plaît ainsi à montrer, et c'est Paul qui dit aux Galates, qu'il n'y a plus en Christ ni juif ni grec, mais vous êtes tous un en Christ Jésus. En Christ, les barrières sociales, les barrières ethniques, voire raciales, je n'aime pas utiliser le terme de race, je crois qu'il n'y a qu'une seule race, c'est la race humaine. Il n'y a pas plusieurs races, les noirs, les blancs, les jaunes, les bleus, les verts, non. Enfin, il n'y a qu'une seule race, c'est la race humaine. Enfin, il peut y avoir des différences de couleur de peau, ou de différences sociales, etc. Et dans l'Église de Jésus-Christ, il n'y a que des frères et des sœurs, ceux qui sont rachetés par le Seigneur. Ça n'empêche que nos différences peuvent amener des opinions diverses. Il peut y avoir aussi des tempéraments différents parmi nous. Ça peut amener des tensions dans une église. Ça peut amener des divisions. Et le Nouveau Testament témoigne aussi de divisions, de tensions qui existent ainsi dans les différentes églises. Qu'est-ce qu'on voit encore dans ce petit texte d'Actes 13 ? Pendant qu'il célébrait le culte du Seigneur, qu'il jeûnait. C'est lors d'un culte. Un culte. Peut-être, comme à Troas, qu'on trouve en Actes chapitre 20, le premier jour de la semaine. Le dimanche, le premier jour de la semaine. Mais chez les Juifs, le premier jour de la semaine, le dimanche commence le samedi soir. Peut-être le samedi soir, peut-être le dimanche matin, peut-être le dimanche soir. Les gens travaillaient, ils n'avaient pas repos le premier jour de la semaine, donc ils se réunissaient en dehors des heures du travail. Il y a eu là, pendant qu'ils se sont réunis, un événement qu'on peut qualifier d'historique, qui a fait de cette église d'Antioche le berceau de ce que l'on appelle aujourd'hui la mission. Luc écrit que cela s'est passé pendant qu'il célébrait le culte du Seigneur. L'ancienne traduction, la Bible dite, seconde dite de Genève en 1979, traduit ainsi « pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient ». Dans ce culte, il y a eu un temps de prière et qui était accompagné d'un jeûne. C'est-à-dire que l'église d'Antioche s'était entièrement consacrée à la prière, probablement en débordant sur le temps du repas et en le supprimant, ce repas. pour se consacrer davantage à la prière, à la présence de Dieu, sans doute aussi à l'enseignement de la parole de Dieu. Et Dieu a honoré cette attitude de foi. Le Saint-Esprit a parlé à cette Église et lui a demandé de mettre à part deux de ses meilleurs éléments. Vous vous souvenez, Paul et Barnabas, Barnabas est allé chercher Paul. Il était, on pourrait dire, indispensable à l'enseignement de ces nouveaux chrétiens qui n'y connaissaient pas grand-chose. Alors, c'est vrai qu'une année probablement a passé, mais n'empêche qu'il y avait encore sans doute d'autres convertis et d'autres besoins. Et Dieu dit, eh bien, envoyez ces deux personnes dans des terres étrangères pour annoncer l'Évangile, y fonder des églises nouvelles. Et c'est ce qui s'est passé, et c'est de cette façon que Paul est parti, et qu'ensuite toute la région de l'Asie mineure, la Turquie actuelle, l'Europe ensuite avec la Grèce, la Macédoine c'est le sud de l'ancienne Yougoslavie, hein, et puis Rome, l'Italie, l'Europe, toutes ces régions ont pu être évangélisées parce que cette église d'Antioche prier lors d'un culte et avait reçu cette parole du Saint-Esprit, « Mettez-moi à part Paul et Barnabas ». Cette église est devenue une église missionnaire. Elle était tournée vers l'église de Jérusalem. Il y avait des liens avec les églises de Jérusalem, mais ensuite elle aura des liens avec d'autres églises. Et quand l'apôtre Paul et Barnabas auront fini leur premier voyage missionnaire, ils reviendront à Antioche et ils rendront compte de ce qui s'est passé. Et l'Église louera le Seigneur pour ce qui s'est passé par le ministère de Paul et de Barnabas. Alors je me suis posé une question. Est-ce que l'Église de Jérusalem aurait pu envoyer des missionnaires en Asie mineure ou ailleurs, comme l'église d'Antioche a pu le faire? Et ma réponse est que c'est peu probable, parce que l'église de Jérusalem, formée de juifs, était trop ancrée dans ses préjugés, peu encline à s'ouvrir sur le monde extérieur. Il y a eu, et on voit cela dans le livre des Actes des Apôtres, ensuite, Actes chapitre, dans l'Épître aux Galates, aussi dans Actes chapitre 15, un gros problème dans l'église de Jérusalem, et aussi là où ces juifs voulaient un peu revenir aux préceptes, à la loi, aux rites de l'Ancien Testament. Faut-il imposer ces rites, cette loi, aux convertis non-juifs? Faut-il continuer à pratiquer les lois, les rites de l'Ancien Testament? Et toute l'Épître aux Galates nous dit non, ça c'est terminé, c'est révolu, c'est passé, maintenant c'est nouveau et il n'y a plus besoin de faire circoncire les nouveaux chrétiens, de respecter les règles alimentaires, etc. Antioche était beaucoup plus tournée vers le monde païen que les Juifs convertis de Jérusalem. Cependant, les Juifs d'Antioche avaient besoin, les chrétiens d'Antioche, pardon, avaient besoin des chrétiens de Jérusalem. On voit que Barnabas est envoyé et c'est quelqu'un de Jérusalem qui va enseigner ces chrétiens d'Antioche. On ne se coupe pas de ses racines, mais on se soutient mutuellement, comme en témoigne aussi ce secours spontané envoyé à l'église de Jérusalem lors de la famine. Je conclus. Qui sait ce qui se passait, ce qui peut se passer lorsque nous célébrons le culte du Seigneur? Il n'est pas rare que des vocations naissent au sein de nos cultes ou de nos réunions. J'espère qu'il peut y avoir et qu'il y a des conversions, mais des vocations de ceux qui se sentent appelés pour un ministère à plein temps ou pour aller ailleurs en mission, par exemple. Et lorsque l'Église prie, lorsque l'Église jeûne, c'est-à-dire qu'elle prend tellement au sérieux la prière qu'elle peut se passer d'un repas, ne doit-on pas s'attendre à ce que Dieu se manifeste, à ce que Dieu parle ? On ne prie pas seulement lors de nos cultes, on prie aussi lors de nos rencontres de prière. Mais pourquoi si peu de monde ? Pourquoi ce manque d'élan pour prier, pour chercher la face de Dieu, pour chercher sa volonté et pour lui apporter les sujets parfois douloureux que nous avons sur le cœur ? Beaucoup de choses peuvent se passer lorsque l'on prie et je vous encourage à revoir peut-être devant Dieu votre vie de prière personnelle. Combien de temps, tous les jours, consacrons-nous à la prière, à ce temps de présence devant Dieu, de communion avec Dieu et aussi où nous lui faisons part de ce que nous avons sur le cœur ou des fardeaux des uns et des autres que nous lui apportons. Quand avons-nous assisté à une dernière réunion de prière de notre Église ou d'ailleurs ? Voilà, je crois, des questions qui peuvent remettre les choses en ordre aussi dans notre vie et qui peuvent donner au Saint-Esprit l'occasion de se manifester au milieu de nous. Alors, cette Église est née par une occasion malheureuse, la persécution, et puis par le déplacement des chrétiens. Et ces chrétiens ont témoigné de leur foi de façon, on pourrait dire, presque naturelle. Et puis ces chrétiens ont été aidés par l'Église de Jérusalem, et l'Église de Jérusalem a été aidée par l'Église d'Antioche. Et puis, à cause du sérieux de ces chrétiens et de l'enseignement qu'ils ont reçu et du temps qu'ils consacraient devant Dieu à la prière, Dieu leur a dit « Envoyez Paul et Barnabas ». Ils n'ont pas dit « Mais non Seigneur, on a trop besoin d'eux ici, on va les garder, mais qu'est-ce qu'on va faire sans eux ?» Le Seigneur a sans doute pourvu, il a donné d'autres personnes. Mais voilà une Église qui s'est ouverte sur le monde extérieur, non pas en mélangeant les rites païens aux rites chrétiens, mais en annonçant l'Évangile, en allant vers les autres, au loin, et en permettant que l'Évangile ainsi progresse. Quel exemple formidable que cette Église d'Antioche. Et bien que Dieu nous aide à nous en inspirer et à nous poser pour nous-mêmes aussi les bonnes questions. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, merci encore pour ta parole si fraîche, si parlante, parce que elle nous montre aussi ce que tu as fait autrefois et ce que tu peux faire encore aujourd'hui. Aide-nous, Seigneur, à savoir progresser en toi, grandir en toi, à être de ces chrétiens qui s'édifient sur le fondement de la parole et que tu peux utiliser aussi, au loin comme auprès. Bénis aussi notre Église, qu'elle soit aussi une Église missionnaire, une Église qui grandit, une Église qui témoigne. Merci pour le Saint-Esprit qui agit aujourd'hui comme hier. Bénis chaque personne ici présente. Au nom de Jésus. Amen.